Extra, la chronique américaine.
We will make America great again.
Avec Valérie Beaudoin.
Madame Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Bon, le rapport Mueller, on attend pourtant le président Trump, quand il aime pas quelque chose à la télé, il réagit tout de suite. Il a vu une reprise de SNL la semaine passée, il a réagi illico. C'est une reprise, je pense qu'il avait oublié, là, parce qu'il s'est mis à commenter la performance d'Alec Baldwin encore une fois. Mais sur le rapport Mueller, il a rien dit. Rien dit. Il a tweeté deux affaires depuis.
Oui, et ça vient d'arriver. Alors, il a dit, je fais la traduction littérale, bon matin, bonne journée, make America great again. Alors voilà, c'est les seuls mots qu'on a eu de Donald Trump. Donc, deux petits tweets. On est habitué d'avoir, je pense qu'il y a une journée la semaine dernière, il y a peut-être eu 20 tweets dans la même journée. Ça n'arrêtait pas du matin très tôt jusqu'à la soirée. Je pense qu'il se garde une certaine retenue et il y a peut-être des gens qui lui ont confisqué ou contrôlé son téléphone en disant, attendons de voir ce qu'il y a dans ce rapport-là, Mueller, sur les allégations de collusion avec la Russie, parce que même si on dit qu'il n'y aura pas d'autres accusations, est-ce qu'il y a quand même des éléments qui sont incriminants? Qu'est-ce qui va être connu du public?
Ouais.
Et qu'est-ce que la Maison-Blanche souhaite qu'il soit caviardé, qu'il soit retiré du rapport pour des raisons de confidentialité? Est-ce que c'est des discussions qu'a eu Trump avec des dirigeants étrangers ou autres? C'est pas tout ce qui peut se retrouver entre les mains du Congrès et du public américain.
On en parlait hier. Bill Barr a dit qu'il allait témoigner, qu'il allait communiquer assez rapidement là, les grandes lignes du rapport Mueller. Il y a rien qui a été transmis jusqu'à là. En tout cas, il y a rien qui a coulé là pour le moment.
Non, et CNN et les réseaux américains suivent Bill Barr à la, je vous dirais, ils sont partout autour de lui pour savoir quel est le moment où il va se rendre au Congrès américain pour remettre ses fameuses conclusions. Bon, ça devrait arriver aujourd'hui normalement parce qu'il l'a dit par le biais d'un porte-parole. C'est ce week-end que je devrais remettre les grandes conclusions. Mais là, imaginez-vous, je ne sais pas c'est quoi la taille de ce rapport-là. Mais Robert Mueller et son équipe, là, ils ont un gros week-end devant eux. Ils doivent regarder la totalité, bien sûr, du rapport. Qu'est-ce qui doit être connu du public? Qu'est-ce qui doit être connu du Congrès? Et là, la fine ligne entre « faut pas trop en dire, mais faut en dire assez pour satisfaire tout le monde, mm-hmm. autant le président mm-hmm. que les démocrates, parce que si je vais trop d'un côté ou de l'autre, ben ils vont être accusés de prendre le parti pris quand il doit quand même avoir une neutralité, même si William Barr a été nommé par le président Trump. »
Bon, évidemment, le spin est parti, que ce soit sur les médias sociaux, je le reçois par courriel aussi de gens qui disent « il n'y a rien là-dedans, à preuve, c'est qu'il n'y aura pas d'accusation, c'était n'importe quoi. » Les journalistes encore, fake news, etc., oui. etc. Là, il y en a que ça devient du délire. Là.
Oui.
Mais ceci dit, il y a d'autres éléments qu'il faut savoir parce qu'au-delà du rapport Mueller aussi, il y a d'autres éléments, puis on se tourne vers Manhattan. Qu'est-ce qui se passe là avec les autres problèmes juridiques?
Oui, exactement. Ben sur ton point, je veux juste rajouter aussi que peu importe que ça soit du côté, c'est tellement polarisé aux États-Unis, autant les démocrates que ceux qui sont du côté fake news vont dire, peu importe c'est quoi la conclusion, les démocrates vont dire, il y en a, bon, il manque des éléments, ils veulent nous cacher quelque chose. De l'autre côté, ça va être le contraire. Alors on est un peu dans une boucle qui va pas se terminer. Manhattan, pourquoi c'est intéressant? Il y a encore beaucoup de dossiers qui sont devant des tribunaux, et ça découle de Robert Mueller et de son enquête. On en parlait hier, là, du fait que c'est tentaculaire, qu'il y a des choses qui ont découlé de ça. Juste vous rappeler que Paul Manafort, lorsqu'il a eu sa sentence de prison, c'est dans les minutes qui ont suivi, on a dit « Ah, surprise, on a d'autres accusations pour toi de fraude hypothécaire » et ça découlait quand même de cette enquête-là. Il y a Michael Cohen qui était devant le Congrès américain il n'y a pas très longtemps et qui a dit « Je sais que des procureurs de New York enquêtent sur des allégations du président Trump. » Et là, on n'a pas plus de détails là-dessus. Des choses par rapport à la Trump Organization, par rapport à sa famille, par rapport au comité inaugural en janvier, quand il y avait eu une inauguration là, de Trump qui devenait officiellement président des États-Unis. Il y avait des fonds étrangers qui auraient pu être utilisés. Alors, c'est pas terminé, ces problèmes juridiques pour Trump, ça c'est très certain. Mais l'enquête de Robert Mueller, ils vont fermer les livres et on va déménager de ce bureau où on est depuis 22 mois à faire cette enquête-là.
Bon, vidons la question de la famille présidentielle, si tu veux le bien, parce que Ivanka Trump et Jared Kushner qui auraient utilisé leur compte de messagerie personnelle dans le cadre de leur emploi à la Maison-Blanche, il me semble que ça sonne déjà vu, cette affaire-là.
Ça nous sonne des cloches, hein?
Ouais.
Hillary Clinton, peut-être?
Un lock-her-up.
Voilà. Temps. Voilà, est-ce qu'on va avoir un nouveau champ pour certains membres?
Je ne penserais pas.
Ben non. Alors, Jared Kushner, il faut dire quand même qu'il y a un poste, il est conseiller du président, il gère beaucoup de choses à l'international. Mmh. Ivanka aussi a un rôle à la Maison-Blanche. Et entre autres, on aurait utilisé le service de la messagerie WhatsApp. C'est utilisé, on peut, de type chat, envoyer des messages, des vidéos, un service un peu téléphonique sur une application. Et il aurait eu des communications.
Qui est encrypté habituellement, là.
Voilà, avec M. Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Entre autres, on sait que Jared Kushner et lui sont quand même proches. Il avait déjà dit qu'il échangeait des textos avec lui. C'est quelqu'un qui était un de ses proches dans l'affaire Khashoggi. Est-ce qu'il y a eu des échanges qui ont été faits? Et quelle est l'information sensible? On est loin des 30 000 courriels d'Hillary Clinton, il faut le dire, qui ont été dans un serveur, qui ont été cachés, qui ont été effacés. Mais Ivanka et Jared Kushner peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, qu'on ne peut pas utiliser de services de messagerie personnelle, autant courriel que des WhatsApp, que d'autres applications, pour discuter d'affaires confidentielles, d'affaires de la Maison-Blanche. La campagne de Trump a été basée autour de ça. Ça a tellement fait tabac que ça paraît quand même très, très mal dans les perceptions qu'eux utilisent ces façons de faire-là. Un courriel personnel pour répondre à des gens dans le cadre de leur fonction.
Autre élément, cette fois, c'est en Floride, une opération assez importante. On veut inscrire 1 million de personnes sur la liste électorale. Et on comprendra que c'est un endroit où ça a été toujours très serré et des élections, pour le dire, quand même assez controversées. C'est bel et bien la Floride où on est dernières années.
Oui, et on a dit, est-ce que c'est la clé pour battre Donald Trump? Est-ce que c'est pas en justement creusant le rapport Mueller ou autre chose? C'est vraiment en mettant ces gens-là à la liste électorale. Je vous rappelle qu'en Floride, il y a eu un vote, un référendum dans la dernière élection pour que les gens qui ont un casier judiciaire puissent avoir le droit de voter. Il y a des gens qui avaient fait de la prison aux États-Unis et que on leur enlevait le droit de vote à vie. En Floride, on a décidé de leur redonner ça, à part pour des crimes quand même très graves. Ces gens-là, on doit les inscrire.
Il y avait des affaires extrêmement insignifiantes. Il y a des gens qui avaient même eu un pardon, qui pouvaient, ils étaient même pas admissibles
et
à voter pour des choses qui étaient quand même, qui dataient là, d'un passé de plusieurs décennies.
Alors, on se dit, c'est peut-être la clé pour battre Trump. Andrew Gillum, qui était candidat pour être gouverneur là-bas en Floride, qui est le leader de cette initiative-là et qui l'a dit qu'il se présenterait pas à la présidence. Il trouve que la clé est vraiment dans cette nouvelle campagne en Floride.
Madame Beaudoin, merci beaucoup.
Merci.
Allez bien, Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Il est 8h56. Christian Page sera avec nous dans les prochaines minutes.